Incontri con la Fondazione Émile Chanoux.
E con noi, come ogni settimana in questo periodo, il segretario generale della Fondazione Chanoux, Etienne Andrione, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ed è nuovamente con noi Christian Dunoyer, presidente del Centre d'études franco-provençal René Houillet. Perché anche oggi ritorniamo a parlare di questa bella realtà e anche dello stato di salute del nostro patois.
Oui, ben merci Christian d'être encore avec nous. Donc oui, on s'était, disons, donné rendez-vous pour parler un peu du franco-provençal. Je l'appelle franco-provençal parce que c'est, disons, aux dernières nouvelles ainsi qu'il faut l'appeler, centre d'union. Mais on l'appelait patois et puis il y en a d'autres qui proposent de l'appeler arpitan. Donc un peu d'histoire peut-être de cette langue et puis comment l'appelles-tu toi cette langue?
Voilà, il faut dire que le terme franco-provençal fait un peu savant peut-être. Et puis c'est un terme long à écrire aussi. Alors c'est peut-être pour cela qu'il n'a pas eu vraiment une large diffusion. Ça reste un peu dans les milieux académiques, là où il a été inventé à la fin du 19e siècle. Donc c'est un terme qui n'a pas une longue histoire. Il faut dire que les populations du domaine franco-provençal n'ont jamais imaginé vraiment un terme propre à cette langue du peuple, parce que ils étaient doublement fédérés par deux langues. Donc d'un côté, le patois parlait tous les jours, mais on disait patois aussi dans le sud de la France, en domaine occitan. Et puis la langue littéraire qui était le français. Donc français, ça recoupe un peu tout ce qui se parlait dans la journée, que ce soit à l'église, à l'école ou à la maison.
Très bien. Et donc, je vois que tu as glissé, disons, sur la définition d'arpitan. On va peut-être y revenir. Alors, cette langue, justement, déjà, ce trouble, enfin, cette une langue qui se cherche et qui se cherche même un nom. Mais c'est quand même quelque part la preuve d'un certain intérêt pour cette langue. Et combien est-elle répandue? Je veux dire, bon, d'abord en Vallée d'Ost et puis dans l'air où elle était, disons, connue dans le passé.
Alors, combien? Avant de parler des nombres. Je suis pas trop douée pour les chiffres. Déjà, puis il n'y a pas de vrais chiffres pour répondre à la question. Je ne glissais pas sur le terme arpitan, simplement, voilà. J'ai parlé d'abord de franco-provençal. Arpitan, c'est un terme qui, du point de vue étymologique, va très bien. Et il décrit très bien la réalité et le monde franco-provençal. Donc, c'est un terme plus récent. Et maintenant, il a une certaine fortune.
E per il resto, aspettiamo un attimo, un po' di musica. Siamo ancora insieme per la nostra rubrica settimanale dedicata alla Fondazione Chanoux, con uno sguardo aperto alle altre associazioni che si occupano di cultura nella nostra regione. Passo di nuovo la parola ad Etienne Andrione.
Oui, donc Christiane, nous en étions justement au nombre. Donc il y en avait quelques-uns que nous avions recueillis comme fondation, mais cela remonte déjà à 2001.
Ouais.
Voilà, la sensation c'est que depuis, et contrairement disons à certaines prévisions, le franco-provençal, je continue à parler comme ça, disons, a augmenté sa diffusion, en tout cas sa popularité, c'est-à-dire que l'intérêt est augmenté pour cette langue, pour ce code, également disons pour ce que cela recouvre du point de vue identitaire. Mais avant de revenir là-dessus, est-ce qu'à l'extérieur, c'est-à-dire en clair, en Savoie et en Suisse, il est encore parlé, connu, étudié?
Parlé, dans la mesure où on trouve encore des personnes avec qui on peut le parler, donc ça se parle. Et étudié, valorisé de plus en plus. On est dans une dynamique de valorisation, de reconnaissance. La Confédération helvétique est en train de faire des démarches pour la reconnaissance du franco-provençal. La région Rhône-Alpes est le promoteur d'une charte de coopération transfrontalière pour des actions concrètes sur le franco-provençal. Donc, voilà.
Oui, donc là où il paraissait encore plus mort qu'ici, disons, finalement, c'est là aussi qu'une sorte de résurrection se fait.
Un dynamisme qui démontre qu'il y a quand même une revitalisation de cette langue et un intérêt tout neuf auprès des jeunes qui, grâce à Internet, très souvent, communiquent entre eux d'une région à l'autre. Peut-être il n'y a plus une dynamique de proximité parce que la personne est un peu isolée et parle autre chose quand elle sort de chez lui. Mais en même temps, voilà, il y a des réseaux Internet qui marchent très bien autour du franc-provençal.
Bien, ben donc disons une des preuves hein, de cet intérêt a été tout récemment donc l'adoption finalement d'une orthographe disons normalisée ou en tout cas égale pour tout le monde pour le franco-provençal. Mais il y a eu quand même beaucoup de polémiques. Mm-hmm. Veux-tu nous en dire quelques mots?
Mm-hmm. Oui, les polémiques ça existe. D'autant plus qu'il n'y a pas une graphie unique, c'est-à-dire que chaque région a fait des choix un peu différents. Et voilà, mais en même temps, il y a une volonté de travailler tous ensemble. Depuis 2 ans, il y a un Conseil international du franco-provençal dont le centre est membre. Et là, justement, on s'occupe de travailler ensemble. Alors, pour nous, la graphie n'est pas la priorité, c'est-à-dire que pourvu qu'on travaille sur le franco-provençal et qu'on communique en franco-provençal, puis après, on peut, la graphie sera plutôt une conséquence d'après notre de notre point de vue, c'est-à-dire que ce sera justement l'exigence de la communication qui donnera les clés de la vraie graphie.
Ci fermiamo ancora un attimo, musica per noi. Continuano i nostri dialoghi per conoscere meglio il franco-provenzale o il patois che dir si voglia, in particolare insieme alla nostra ospite di oggi, Christiane Dunoyer.
Oui, donc Christiane, nous en étions, disons, à la graphie, qui est quand même, donc tu parlais d'Internet. Internet, ça peut aussi être, disons, une communication orale, mais c'est surtout une communication écrite. Donc quand même, la façon dont on écrit a son importance. Et on avait souvent souligné, disons, que une des causes de la crise de l'époque du franco-provençal était justement qu'il n'avait pas une graphie. Alors, est-ce que la graphie, par exemple, employée en Vallée d'Ost est la même que l'on emploie en Savoie, que l'on emploie en Suisse? Est-ce que on arrive à communiquer, disons, avec la graphie valdôtaine, ou bien est-ce qu'on emploie une autre graphie quand on s'adresse, si j'ose dire, au franco-provençal international?
Voilà, il faut avoir... voilà, alors disons que la graphie en Vallée d'Ost aussi, il y a plusieurs graphies qui coexistent, donc par rapport à la graphie du Braille, c'est une graphie phonétique, donc il est important de restituer, selon cette graphie, il est important de restituer les sons de celui qui parle. Très souvent, je vois que sur Internet, il y a une autre démarche qui prime, c'est-à-dire que comme on veut envoyer des messages et passer des contenus, le souci de comment ça se prononce localement est moins important que le contenu qu'on veut véhiculer. Et donc, très souvent sur Internet, il y a une graphie supradialectale qui est utilisée. Et sans en arriver à cette graphie codifiée et supradialectale, disons qu'il y a beaucoup de tentatives de communication qui aboutissent pas trop mal. Et la preuve en est qu'on a un journal édité justement par le CIF, c'est-à-dire toutes ces associations locales qui collaborent. Ce journal, cette année, a été diffusé à la fête du patois de Bulle pour la première fois en couleur, en grand format. Et voilà, donc des articles d'un peu partout, avec l'envie de partager des événements culturels et des événements locaux, dans un souci de faire du franco-provençal une langue qui puisse marcher et qui puisse permettre de communiquer.
Très bien. Je ne veux pas quand même m'attarder trop sur la question de la graphie, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui est peut-être pas totalement compréhensible pour quelqu'un qui ne parle que l'italien, finalement, parce qu'en italien, on prononce exactement ce qu'on lit. Ce n'est pas le cas dans plusieurs autres langues, y compris évidemment le français. Nous en parlons tout à l'heure, c'est ça?
Dobbiamo concludere nei pochi minuti che abbiamo a nostra disposizione. Immagino, Etienne, Christiane, dando uno sguardo al futuro.
Oui, bah justement, évidemment, donc une langue que d'ailleurs l'enquêteur Mosaïque, n'est-ce pas, il y a quelques années, donnait pour morte dans l'espace de 20 ans. La recherche en question a plus de 20 ans et le franco-provençal n'est pas mort. Donc on peut être relativement optimiste, encore qu'il y ait peut-être des dangers qui guettent à l'horizon.
Mm-hmm. Il faut surtout rappeler que la société a subi une forte évolution ces dernières années. Il faut revoir peut-être les modalités de transmission de la langue. Ce n'est plus la famille qui a le rôle central dans l'éducation des enfants. Les enfants sont posés à la crèche souvent avant de commencer à parler. Alors il faut que les institutions prennent conscience du rôle nouveau qu'elles sont appelées à jouer dans la transmission des langues. première chose. Et puis, une autre réflexion que je tenais à faire, c'est sur le rôle que nous avons aujourd'hui, donc la prise de conscience du fait que le patrimoine de demain se construit aujourd'hui. Et c'est donc notre manière d'appréhender notre culture aujourd'hui qui portera des conséquences sur l'héritage que nous laissons à la postérité. Alors, des choix sont à faire.
Évidemment, mais ne peut-on pas dire de cette société, hein, ce qu'avait écrit Peggy à un certain point, une société qui ne s'enseigne pas est une société qui a honte d'elle-même. On ne dirait pas que la société d'aujourd'hui, en général, hein, sans faire d'allusion spécifique, mais on ne dirait pas que cette société pense au futur, en même temps on ne dirait pas qu'elle est assez fière pour s'enseigner. Comment s'en sortir, je veux dire, par rapport à la langue?
Déjà, se tourner la tête vers le futur et déjà regarder le présent d'un peu plus près. On ne peut pas tourner la tête rien que du côté du passé. Les racines sont importantes, mais il faut aussi appréhender correctement ce que c'est que l'identité valdôtaine de nos jours. Comprendre pourquoi il y a des personnes qui, encore de nos jours, pratiquent une langue locale, bien enracinée sur un certain territoire, et quelles sont les raisons pour lesquelles ils se sentent intimement appartenir à une certaine culture. Alors, analyser l'identité contemporaine est la condition indispensable pour pouvoir construire le devenir de cette société.
Oui, donc finalement, à part le franco-provençal, si cette société, là, nous parlons de la société valdôtaine, veut avoir un avenir, il faut d'abord qu'elle se regarde dans les yeux quelque part, qu'elle commence à réfléchir, faute de quoi, évidemment, tout sera laissé à l'avenant, mais surtout, on ne saura pas pourquoi on est en train d'aller quelque part. Merci infiniment, c'est très 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 aimable. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Voilà, merci.
Grazie ai nostri ospiti di oggi, Etienne Andrione e Christiane Dunoyer, per essere stati con noi. Questa rubrica ritornerà sempre su Radio Proposta in Blu la prossima settimana. Da parte di Paola Borgnino, a risentirci a presto.
La Fondazione Emile Chanoux vi aspetta la prossima settimana.